Donc, je vous propose ce soir qu'on ne refasse pas une lecture de Jean 1, en tout cas de la poursuivre, du fait du temps que l'on va prendre dans cette méditation. Je vous invite plutôt à reprendre cette lecture attentivement pour vous, mais je serai fidèle au texte. Et je souhaitais mettre la focale sur Jean-Baptiste. Sur Jean-Baptiste et puis la manière dont les disciples ont été appelés par Jésus, puisque après le prologue de « Au commencement était Dieu et la parole était Dieu », le texte de Jean se poursuit sur l'avènement de Jean-Baptiste qui annonce celui qui va venir, donc Jésus. Alors, j'ai passé beaucoup de temps cet après-midi, ce matin également, beaucoup d'heures, et je trouve absolument passionnant la méditation de la parole, et je vous encourage à méditer les Écritures, à repasser les textes, à les relire, parce que moi j'ai fait des découvertes qui m'avaient échappé, je dois le dire, avec beaucoup d'humilité, et ces découvertes que j'ai envie avec joie de les partager. Alors, et surprenant. Amen. Alors, on va évoquer la figure de Jean-Baptiste dans ce texte de Jean 1. Et on va évoquer sa figure et les contextes qui concernent le ministère de Jean. En fait, il s'appelle Jean. Il aurait dû s'appeler Zacharie, il s'appelle Jean. Jean baptisé. Donc on ne parle pas de l'évangéliste hein, pour bien comprendre ce qui va être décliné. J'aimerais tout simplement rappeler le ministère de Jean-Baptiste qui fut annoncé par les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue non seulement de Jésus, mais de Jean-Baptiste. Et on a des textes dans Ésaïe 43, donc qui sont plus proches du micro peuvent lire le texte pour qu'il soit enregistré. Ésaïe 43 et Malachie 3.1. Oui. Ésaïe 43, chapitre 40, verset 3, et Malachie chapitre 3, verset 1.
Ésaïe 43, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans l'endroit aride.
Malachie 3, 1, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
Amen.
Alors, d'emblée, nous apprenons que le ministère de Jean-Baptiste est celui du messager. Il prépare le chemin. Il prépare le cœur du peuple juif. Mais aussi, de ceux qui allaient devenir ses disciples. Parce que Jean-Baptiste avait des disciples. Il allait ensuite rejoindre Jésus, emboîter les pas de Jésus. Et parmi ses disciples, deux allaient même devenir apôtres. Ceux qui seront à leur tour envoyés par Jésus. Ces deux disciples sont André et Jean. Dans l'évangile de Jean, ils ne se nomment pas, mais on présuppose qu'il s'agit de Jean. Ajoutons à ce premier contexte, concernant l'appel de Jean-Baptiste, sa vocation, le récit de sa vie qui est particulièrement édifiant. Jean, non l'apôtre, est le fils d'Élisabeth, qui est un proche parent de Marie. Je dis bien parents, je reprends le texte, il n'est pas dit cousin, cousine, nièce ou tante, non, c'est un proche parent de Marie. La mère de Jésus, ce que nous rapporte le récit de Luc, Élisabeth. Et là, c'est une, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est un point de détail qui est important, et descendante d'Aaron. Élisabeth est descendante d'Aaron. Nous le lisons dans Luc chapitre 1, verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. Descendante d'Aaron. J'y reviendrai et j'expliquerai en quoi et pourquoi le fait d'être descendant d'Aaron a quelque chose d'extrêmement important. Dans sa vieillesse, parce que c'est avancé dans l'âge, qu'elle fut enceinte. Et enceinte, parce que le Saint-Esprit a permis qu'elle soit, qu'elle donna finalement naissance à Jean-Baptiste. Elle était une femme stérile, c'est ce que nous rappellent les Écritures. Luc 1, 36. Celle que l'on appelait la stérile. Elle était enceinte dans le sixième mois. Rappelons que la naissance de Jean-Baptiste est au jour d'Hérode, roi de Judée. Luc chapitre 1, verset 5. Concernant les naissances de Jean et de Jésus, moi je trouvais extraordinaire le parallèle entre leurs naissances. Il y a quelque chose également de particulièrement édifiant dans leur filiation. Jésus est descendant de David, le roi David, et Jean-Baptiste, descendant d'Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, donc Aaron, le messager de Moïse, lui-même descendant de Jacob. Donc Élisabeth est dans la filiation de Jacob. Aaron prit part à tout ce que fit Moïse pour délivrer les Hébreux du joug de Pharaon. Jean va prendre part au ministère de Jésus pour délivrer Israël du joug du péché en prêchant la repentance et le pardon. Jean est de la lignée de Aaron. Sa vocation sera de préparer le chemin du Seigneur et de préparer pour le Seigneur, comme cela est rappelé dans la parole, un peuple au cœur bien disposé. Un peuple au cœur bien disposé pour accueillir le Messie. Jean-Baptiste est la figure finalement d'un grand prêtre qui annonce l'agneau venu pour enlever le péché et préparer le cœur d'un peuple à recevoir la bonne nouvelle du rachat par grâce. Alors les deux destinées, celle de Jésus et de Jean, sont liées de façon extraordinaire. L'ange Gabriel est apparu à Élisabeth, Luc 1, 19. Il va apparaître également à Marie, quelques mois plus tard. Et cet ange, l'ange Gabriel, il lui déclare qu'elle sera enceinte de Jésus. Il lui évoque également la venue de Jean. L'annonce faite à Marie signifie ici que les deux destinées, celles de Jésus et de Jean, sont liées. Ils vont coexister. Jean et Jésus vont coexister étroitement. Les deux vies, celles de Jean et de Jésus, sont appelées à bouleverser l'histoire de notre monde. Leurs destins vont être étroitement liés, spirituellement et de manière prophétique. Le prologue de Luc, et là je m'échappe de Jean, parce qu'il y a quelques détails qui sont donnés sur la vie de Jean-Baptiste que ne rapporte pas Jean. Le prologue de Luc n'est pas de fait anodin. Et la rencontre de Jean et de Jésus n'est pas fortuite. D'ailleurs, dans le prologue de Luc, Luc rapporte ce qu'il a été dit à propos de la vie de Jésus, mais commence dès le prologue par parler de Jean-Baptiste. D'où, je dirais, l'importance qu'a cette figure, Jean-Baptiste, dans l'histoire même de d'Israël et dans l'histoire de notre humanité. Et qui porte un message qui précède la venue de Jésus. Il prépare le chemin du Seigneur. Alors cette rencontre de Jésus et de Jean s'est produite dès le sein maternel. En effet, Luc rapporte ceci dans l'Évangile, chapitre 1, verset 41. C'est ça qui est assez bouleversant. Dès qu'Élisabeth, quelqu'un peut-être peut le lire à ma place, Luc, chapitre 1, verset 41, je le lis à haute voix.
Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
Dans une autre traduction, j'aime beaucoup cette traduction, il est rapporté que son enfant, remua brusquement. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth indiqua même que l'enfant, c'est-à-dire Jean, qui était conçu depuis 6 mois, tressaillit de joie en elle. Ce n'est pas anodin que de dire cela. Luc 1, 44, « Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. » Wow. Jean dira lui-même 30 années plus tard, dans Jean, chapitre 3, verset 29. Peut-être que l'un d'entre vous peut lire ce chapitre, parce que je trouve que l'analogie et le rapprochement des deux textes m'a époustouflé. Jean chapitre 3, verset 29. Vous allez lire à haute voix.
C'est lui qui a marié, qui est marié. Il est l'ami du marié, qui se tient là, et qui l'entend, et qui est une voix, à cause de la voix du marié. Un soudain qui se tient, et la mienne est parfaite.
La joie qui est la mienne est parfaite. Une joie au contact de Jésus dans le ventre de sa mère Marie. La même joie de Jean lors de l'accomplissement du ministère de Jésus. Jean tressaillit quand il dit « Enfin l'accomplissement de celui qui est à ses yeux, le Fils du Très-Haut. » Il y a une proximité invisible de deux êtres qui ont une mission et un mandat de la part de Dieu. Et la joie qu'ils expriment l'un et l'autre, parce que ce n'est pas Christ, ce n'est pas un avènement Christ, c'est un avènement qui les remplit de joie. Jean est rempli de joie au contact de Jésus. Il est la promesse pour Israël. Et quand j'ai rapproché ces deux textes, je me suis réjoui. Et je me suis réjoui de découvrir finalement cette relation qui liait les deux destinées, Jean et Jésus. Leurs vies sont et seront marquées par la visitation de l'Esprit de Dieu au sein même de notre monde. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, le prophétise. Heureuse celle qui a cru, parce qu'il lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. C'est dans Luc, chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce qu'il lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Amen. L'ange Gabriel, en déclarant également la venue de Jean, déclare la venue de Jean. L'accomplissement des Écritures. Évidemment, les Juifs, parmi les plus instruits, s'en empirent lorsque commença le ministère de Jean. Les Juifs les plus instruits, et au-delà d'ailleurs, connaissaient les prophéties que je vous ai citées. Ésaïe et Malachie. Mais vous noterez que les plus instruits ne sont pas allés vers Jean pour changer de voie, pour changer de comportement, pour se repentir, mais sont venus auprès de lui pour le questionner. C'est au contraire le peuple qui est venu à Jean pour le baptême de repentance. Nous avons là deux attitudes. Celle du cœur, touché par la voix qui crie dans le désert, et celle d'une inquiétude, poussé par la curiosité sans lendemain, sans retournement et conversion. On va voir Jésus pour savoir si tu es Élie. D'accord ? Ou le prophète. Qui es-tu ? Et c'est extrêmement intriguant, parce qu'il attire des foules vers lui, qui viennent se repentir. C'est quand même un événement en Israël. Un homme qui est en vêtements de chameau, en poil de chameau, qui crie dans le désert, probablement hirsute, d'accord, qui s'est éloigné de toute ville, et les gens viennent par masse pour se faire baptiser. Qui es-tu ? C'est intriguant. Ils ne viennent pas pour se repentir, alors que le peuple, lui, réalise que Jean est l'envoyé de Dieu. Et qu'un avènement se prépare. Jean prépare les cœurs. Il prépare le chemin du Seigneur. Il prépare l'annonce de celui qui est l'agneau de Dieu. D'ailleurs, Jean-Baptiste va déclarer à deux reprises dans le prologue de Jean, « Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte, enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. » Alors, ces Juifs instruits s'en inquiétèrent et demandèrent si Élie n'était pas le prophète annoncé par les Écritures prophétisant la venue du Messie. Et nous y reviendrons, mes amis, sur ce point, car oui, Jean est une figure d'Élie, mais pas Élie, précédant la venue du Messie telle que l'imaginaient la plupart des docteurs juifs. Ce que Jean atteste lui-même, je ne suis pas Élie. Pourtant, il préfigure bien Élie. Il endosse l'esprit d'Élie, puisqu'il est rempli de l'esprit d'Élie. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et Jésus le dit, et je vais y revenir. Élie, mais il annonce la venue du Messie qui vient sauver le peuple juif. Il n'annonce pas le Messie qui va imposer sa loi à tout le peuple. D'accord ? Parce qu'en fait, dans l'attente du peuple juif, c'est celui d'un Messie qui vient rétablir l'ordre et chasser l'ennemi romain. D'accord ? Et se révéler au monde entier. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un autre, personne au travers de Jésus qui va se manifester. C'est le sauveur du monde. C'est le Seigneur. Un agneau qui vient se révéler au cœur du peuple juif. Jean va désigner Jésus comme le Messie et atteste qu'il est le Fils de Dieu. Jean a déjà la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Jean 1, 44. Et moi, j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. C'est Élie. C'est pas Élie, pardon. C'est Jean-Baptiste qui atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Luc 1, 44. Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie. 30 ans plus tôt, dans le ventre de sa mère Élisabeth, l'enfant ressent dans les entrailles de sa maman la présence de celui qui est appelé par l'ange le Fils du Très-Haut. 30 années plus tôt, Jean-Baptiste ressent la présence de celui qui est le Sauveur, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et ce passage des Écritures est particulièrement édifiant. Alors, je reviens à la figure du Messie qui vient sauver, le Messie pauvre, souffrant, qui vient sauver l'humanité. J'aimerais qu'on lise, qu'on s'arrête dans Matthieu 11, 14. Et quelqu'un peut peut-être le lire et on peut commenter ici. Vous pouvez commenter. Matthieu 11, 14. Chapitre 11, verset 14. Vous pouvez le lire.
Si vous voulez l'admettre,
Et on peut poursuivre que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Je pense que c'est important d'associer en fait les deux versets, sinon on ne comprendrait pas. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'élu qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mmh. On pourrait penser qu'il y a contradiction entre le fait que Jean-Baptiste déclare « Je ne suis pas élu » et Jésus qui dit « Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui l'élu qui devait venir. » En fait, Jean-Baptiste, il endosse le rôle d'élu. Okay? L'esprit d'élu. Il est rempli du Saint-Esprit, le même esprit qui a rempli Élie. Le même esprit qui a rempli Élie. Voilà. Mais il n'est pas l'Élie, il n'est pas l'Élie qui va annoncer le Messie que nous attendons, Jésus que nous attendons, à nouveau, son retour, pour juger et établir son règne sur la terre. Voilà. Et c'est Jésus qui est annoncé. Et celui qui vient racheter, mais il vient en agneau. Il ne vient pas en souverain, en roi. Il vient en serviteur. Et c'est là où nous devons ouvrir nos oreilles pour comprendre et entendre ce que Jésus dit. Il est l'élu qui annonce l'agneau de Dieu. Et non pas ce que Malachie avait indiqué à propos de la venue de cet élu qui vient finalement, qui précède celui qui va régner sur la terre pendant 1000 ans. Alors, édifiant n'est pas ici un abus de langage, car Jean, qui aurait dû s'appeler Zacharie comme son père, sera une voix qui va annoncer la figure du Sauveur, l'agneau de Dieu. Jean qui précède Jésus dans sa naissance le précède pour annoncer à tout le peuple sa venue dans le monde. Jean qui n'est pas élu l'est en endossant l'esprit qui habita le cœur d'Élie. Mais il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est dans Luc 1, 17 que nous lisons ceci. Jésus a été enfanté par l'Esprit Saint dans le ventre de Marie. Et il est indiqué pour Jean que celui-ci était rempli dès sa naissance du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1, verset 15, « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Que nous disent les Écritures à propos de Jean? Jean prêche dans le désert, et comme je vous l'ai indiqué, portant sur lui un vêtement fait de poils de chameau. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu, chapitre 3, verset 4. La prédication dans le désert, pour Jean, n'est pas anodin. C'est une invitation à se dépouiller, à ne pas se laisser embrasser par la convoitise des yeux et de la chair. Il est dans le désert, c'est le lieu propice pour que les gens ne soient pas rattachés au monde et qu'ils entendent la voix qui crie dans le désert. Quand on assiste à quelqu'un qui va prêcher dans le désert, là, nos yeux ne sont pas attirés par quoi que ce soit. D'accord ? Nous voyons le matin ici dans ce lieu que tout nous distrait. Dans un désert, rien ne nous distrairait parce qu'il n'y aurait que le désert. Là, c'est la voix qui est portée, c'est la parole qui est portée et qui touche le cœur, qui va éveiller le cœur, qui va impacter le cœur. Il est la voix qui crie dans le désert sans que l'être humain, les yeux ou notre chair soient sollicités par quelque environnement que ce soit. Le désert est propice pour annoncer la parole. Donc la prédication dans le désert, comme je l'ai dit, c'est une invitation finalement à se dépouiller. C'est le dépouillement C'est une forme d'abandon de soi quand on est dans le désert, on se dépouille de soi. Au fond, la repentance, c'est quitter son ancienne vie, et quoi de mieux que le désert pour s'affranchir de son ancienne vie et s'adresser ainsi au cœur de ceux qui viennent à la rencontre de celui qui est appelé à préparer les cœurs à recevoir Jésus, le Sauveur d'Israël. L'endroit est propice. Amen. Jean était rempli de l'Esprit-Saint. Il était en connexion avec le Seigneur. Comme Christ, Jean était un homme d'une grande sobriété. C'est un homme dépouillé, pauvre, sans superflu. Sa vie est remplie d'Esprit-Saint. Il l'a amené à être immédiatement relié à l'Esprit de Dieu. Jean est immédiatement relié à l'Esprit de Dieu. Mais qui pas en était écrit que Jean vit passer Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il voit même en vision, et après le baptême, il voit, je dirais, la colombe descendre sur Jésus. Il y a quelque chose qui est juste interpellant. Il voit la manifestation, il voit spirituellement qui est l'Esprit du Seigneur. Nous lisons ceci, et Jean rendit témoignage, disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe. Et lui a vu les corbeaux, et Jean-Baptiste voit la colombe. Et la colombe demeura sur Jésus. Et pour moi, c'est Jean qui parle, et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est quand même mystérieux ce passage. Dieu divinement l'avertit, puisqu'il lui dit, celui sur qui tu verras, l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Jean baptise d'eau, Jésus baptise de l'Esprit Saint. Amen. Jean baptise d'eau, Jésus baptise de l'Esprit Saint. Et on comprend d'autant mieux quand Jésus nous dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que nous soyons nous aussi baptisés de l'Esprit Saint. Baptisés de l'Esprit Saint. Et il nous faut vivre cette dimension-là. Amen. Amen. Et Jésus a pris le baptême, hein, de Jean. Amen. Par obéissance. Alors qu'il était exempt de péché, qu'il n'avait pas péché, il prend le baptême. Comme pour nous indiquer, vous aussi, si vous voulez me ressembler, prenez le baptême. Mais c'est Jean qui parle, et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. D'emblée, d'entrée, alors que beaucoup ne l'ont pas découvert, mais dès le commencement du ministère de Jésus, Jean sait qu'il est le Fils de Dieu. Nathanaël aussi sait qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Pierre, c'est beaucoup plus tard qu'il prend conscience qu'il est le Fils de Dieu. Pierre, c'est pas trop bien. Mais Nathanaël le sait. Il sait que c'est le Fils de Dieu. Probablement que Jean le sait aussi. Puisqu'il se met à la suite de Jésus, avec André, pour suivre Jésus, parce qu'il reconnaît que c'est l'agneau de Dieu.